franceinter.fr.
Le cinéma l'a présenté comme carnivore, grand comme un immeuble, amoureux d'une belle blonde. Le Gigantopithèque est à la une de la science aujourd'hui. Voilà King Kong qui aime la chair fraîche, King Kong version 2005. Mais à quoi ressemblait justement réellement le Gigantopithèque, ce singe géant découvert en 1935 en Asie du Sud, qui a beaucoup nourri l'imaginaire collectif, mais les connaissances scientifiques sur cette espèce unique sont encore très limitées. Mais une nouvelle publication écarte définitivement la piste du carnivore. Bonjour Jean-Jacques Geiger.
Bonjour.
Vous êtes paléontologue, professeur émérite à l'université de Poitiers, et vous publiez ces résultats avec vos collègues allemands. Vous êtes en ligne depuis Bangkok aujourd'hui. Alors, à quoi ressemblait vraiment ce Gigantopithèque ?
En gros, il ressemblait à un cousin de l'orang-outan, mais dans un format plus important. On pense, les estimations de poids tendent vers 300-370 kilos, maximum pour les mâles adultes. Quant à sa taille, c'est plus difficile à estimer. Elle doit être en proportion du poids dans une certaine mesure, parce qu'il s'agit d'un grand singe. Mais comme on n'a jamais trouvé de reste autre que des dents et des mâchoires, on ne connaît pas la longueur respective de ses membres et de sa colonne vertébrale. Mais en gros, d'après tous les indices qui ont été découverts jusqu'à présent, montre qu'il s'agit d'une forme construite sur le même type que l'orang-outan.
Voilà, mais un orang-outan géant. Voilà, géant qui pouvait atteindre quoi, 4 mètres à peu près, c'est ça ?
Ah ben, dressé, oui, avec les bras étendus vers le haut, il pouvait atteindre 4 mètres pour les mâles adultes. Mais je pense pas qu'il passait sa vie dressé les mains en l'air.
Ouais. Et donc c'est certain, et c'est l'objet de votre publication, il ne mangeait pas du tout de viande, on en est sûr ?
Oui, pratiquement. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. D'abord, il y a l'organisation de sa denture. Il n'a pas les moyens de dilacérer des fibres de viande. Et d'autre part, les résultats des analyses isotopiques montrent clairement qu'il s'agit d'un végétarien. Et d'un végétarien qui se nourrissait surtout de fruits et de restes de plantes, de jeunes feuilles, de jeunes pousses, avec un régime alimentaire qui est quasiment indistinguable de celui de l'orang-outan actuel.
Comment se fait-il qu'on ne trouve aucun squelette de Gigantopithèque ?
C'est un peu une énigme, un challenge, mais l'une des principales raisons, c'est que la majorité des restes de Gigantopithèque qui ont été trouvés jusqu'à présent en Asie du Sud proviennent de grottes. Et dans ces grottes, les porcs-épics ont la mauvaise habitude de se nourrir de tous les ossements.
Aïe.
Et ils ne calent que devant les tissus très durs comme les dents et comme l'oreille interne. Mais sinon, tous les ossements sont mangés et assimilés par les porcs-épics.
Donc ce sont les ennemis des paléontologues, si je comprends bien, Jean-Jacques Geiger.
Absolument, on en a trouvé... On a trouvé des gigantopithèques dans de nombreuses grottes d'Asie du Sud-Est et de Chine, du Sud, et c'est toujours que des dents et des restes de mâchoires au maximum. Il n'y a jamais de squelette postcrânien.
Et comment fait-on pour obtenir un régime alimentaire à partir simplement de quelques dents ?
Eh bien, lorsque le tissu qui constitue l'émail dentaire se construit, il se construit à partir d'atomes de carbone, d'oxygène, de phosphate, qui sont incorporés à partir respectivement de la nourriture pour le carbone et du phosphate et de l'eau pour l'oxygène. Ce système donc nous renseigne sur la nature des communautés végétales qui vivaient à proximité, ainsi que la quantité d'eau de précipitation qui caractérise le climat dans lequel, au moment où les dents se sont construites chez l'organisme.
Et donc, Jean-Jacques Gégère, vous êtes capable d'estimer la taille et le poids d'un tel individu uniquement sur la base des dents ?
Alors oui, c'est très facile, puisque on établit à partir des mammifères actuels une relation mathématique entre la surface des dents et la masse corporelle. Mmh. Et c'est ça nous donne une indication avec une marge d'incertitude relativement grande, de l'ordre de 25%, de la masse corporelle d'un animal éteint qui n'est plus représenté que par ses dents.
Est-ce que nos ancêtres humains ont une chance d'avoir croisé un jour un gigantopithèque ?
Enfin, une chance ou la malchance, parce que j'imagine que ça devait leur faire très très peur.
Alors, la réponse est oui, mais pas notre espèce, pas Homo sapiens, qui n'apparaît en Asie du Sud qu'à partir de 60 000 ans. Mmh. Mais par contre, à cette époque, existaient en Asie du Sud des représentants des pithécanthropiens, des Homo erectus, qui sont encore présents au moment où ont vécu les gigantopithèques. Mais pour le moment, on n'a jamais, à ma connaissance, trouvé associé des restes, dans une grotte, des restes d'Homo erectus avec ceux de gigantopithèques.
Jean-Jacques Gégère, pour aller un petit peu plus loin dans votre publication, vous proposez une hypothèse justement pour expliquer la disparition de ce singe géant, donc il y a environ 200 000 ans. Qu'est-ce qui a été à l'origine de son extinction ?
Eh bien, grâce au moment des refroidissements quaternaires, au moment des glaciations dans l'hémisphère, dans les régions, dans les hautes latitudes, il y a eu une aridification en Asie du Sud qui a réduit la surface des forêts tropicales au détriment d'une espèce de savane herbacée. Mmh. Alors, les orangs-outans, eux, ont pu se réfugier vers le sud parce qu'ils avaient un mécanisme physiologique particulier qui leur permet de résister aux périodes d'isette, parce qu'ils sont capables d'accumuler de la graisse pendant les périodes favorables. Par contre, Gigantopithèque n'a pas cette capacité physiologique, et lorsque les forêts sont disparues ou lorsqu'elles se sont considérablement réduites, cet animal qui avait quand même des besoins alimentaire énorme n'a plus trouvé suffisamment de fruits ou de jeunes feuilles pour assurer sa subsistance.
Voilà donc des informations révélées autour de ce singe géant, plus proche donc de l'orang-outan que du gorille, hein, on l'a compris, 250 kilos en moyenne pour les mâles, 4 mètres debout, et ces informations donc obtenues grâce à ses dents. Merci beaucoup Jean-Jacques Gégère pour vos explications, et bonne journée à vous donc depuis Bangkok.
Je vous en prie, merci.
À bientôt, merci Axel.
À demain Mathieu.
Et on réécoute cette une comme d'habitude.
Tous les podcasts de la une sur franceinter.fr, en même temps que le podcast de l'émission.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, 4 nouveaux éléments ont été officiellement ajoutés fin décembre au tableau périodique des éléments chimiques par l'Union internationale de la chimie pure et appliquée. Les éléments au numéro atomique 113, 115, 117 et 118 viennent ainsi compléter la 7e ligne. Si les scientifiques les ont découverts entre 2002 et 2010, il a fallu prouver qu'ils existaient bel et bien. Tous fabriqués en laboratoire à partir d'expériences avec des accélérateurs de particules, ils se désintègrent très rapidement. Il était donc difficile de reproduire les expériences pour confirmer leur découverte. Une orchidée dégageant une odeur humaine pour attirer les moustiques, c'est ce qu'ont révélé des chercheurs lors de la conférence annuelle de la Société pour la biologie intégrative et comparative. En mettant des sacs hermétiques sur plusieurs orchidées, ils ont collecté leurs odeurs et ont découvert que la Plantateria obstusata possédait des substances chimiques qu'on trouve dans le corps humain. Même si les moustiques ne sont pas connus pour être de très bons pollinisateurs, cette orchidée des marais fréquente aux États-Unis se base essentiellement sur eux pour se reproduire. Et puis l'intelligence est-elle comme la couleur de nos yeux inscrite dans notre code génétique ? Une étude britannique a mis en lumière un lien entre deux groupes de gènes et le degré de l'intelligence humaine. Ces deux réseaux joueraient un rôle important, à la fois dans nos fonctions cognitives telles que la mémoire, la rapidité ou le raisonnement, mais aussi dans notre prédisposition à certaines maladies comme l'épilepsie ou la schizophrénie. Si le rôle de chaque groupe est encore indéterminé, il est possible qu'il soit régulé conjointement. Une hypothèse qui, selon les chercheurs, permettrait de manipuler une gamme de gènes dont l'activité est liée à l'intelligence humaine.